La vie d'Avidanta. Une émission présentée par Aline.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente le journal hebdomadaire de la vie quotidienne. Au sommaire cette semaine, dans le thème principal, je vous parlerai du printemps, de l'énergie et de l'organe qui sont sollicités à cette période de l'année, à travers le regard de la médecine traditionnelle chinoise. Je vous dresserai le portrait du romarin, qui est une très bonne plante pour aborder le printemps, le foie léger. Et dans la rubrique des aliments qui nous soignent, je vous parlerai de la saveur acide de l'aliment, qui est bénéfique pour le foie, ce fameux organe mis à l'honneur à la saison du printemps. Et tout de suite, passons au thème principal, l'énergie du printemps en médecine traditionnelle chinoise. En médecine chinoise, le printemps commence début février, plus précisément le 4 février, alors qu'en Occident, il débute le 20 mars. Pourquoi le printemps débute-t-il si tôt en Chine ? Le calendrier chinois n'est ni uniquement lunaire, comme le calendrier grégorien que nous utilisons, ni uniquement solaire. C'est un mélange des deux. Il suit le cycle annuel du soleil et le cycle des phases de la lune. Les saisons chinoises ne débutent pas comme chez nous lors des équinoxes et des solstices. Elles démarrent plus tôt, lorsque les énergies de cette saison commencent tout juste à se développer. Vieille de 6000 ans, la médecine chinoise est le fruit de savoirs et de pratiques venues non seulement de la Chine, mais aussi du Vietnam, de la Corée, du Japon et d'autres pays asiatiques. Cette médecine considère le printemps comme la saison de la croissance et de la force. C'est le moment de l'éveil de la nature, de la montée de la sève dans les arbres, de l'éclosion des bourgeons et des fleurs. C'est aussi la saison de la montée des énergies. L'homme, au même titre que la nature, subit ou bénéficie des effets de ce mouvement perpétuel de transformation de matière en énergie et d'énergie en matière. Selon la médecine chinoise, chacun de nos organes est en correspondance avec une saison. Et c'est pendant la saison avec laquelle il est en relation que l'organe concerné est au maximum de ses capacités énergétiques. Comme le foie est l'organe du printemps et qu'il est très sensible aux effets de notre environnement et de notre alimentation, nous devons particulièrement le ménager à l'arrivée du printemps. Donc un petit conseil, modération avec l'alcool, le café, le sucre, le tabac, car un foie surmené génère des pathologies associées comme l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux. Alors, petit résumé. Une saison, un organe, une énergie. Ici, le printemps, le foie et la croissance. Un autre concept fondamental de la pensée chinoise vient complexifier cette approche générale. C'est la notion des cinq éléments, que je préfère appeler les cinq mouvements. Ces cinq mouvements sont l'eau, le bois, le feu, le métal et la terre, et sont les cinq étapes du cycle croissance-décroissance du yin et du yang qui est à l'origine de toute manifestation. La qualité du mouvement bois est donc associée au printemps, donc au foie, au vent qui réveille, qui vivifie, qui agit. Ceci nous évoque l'idée de dynamisme, de mobilité, d'agitation. Le bois, c'est le mouvement de la croissance, de ce qui pousse, qui sort de la terre, c'est la montée en tension des énergies. C'est la croissance du yang. Alors, nouveau petit résumé. Une saison, un organe, une énergie, mais aussi un mouvement et une émotion. Toujours ici, le printemps, le foie, la croissance, mais aussi le bois et la colère, qu'elle soit exprimée ou intériorisée. l'organe foie, est couplé avec l'entraille vésicule biliaire et ils fonctionnent ensemble. Leur relation est très étroite et toute incidence sur l'un retentit sur l'autre. Le foie intervient essentiellement sur le processus de circulation du sang et de l'énergie. Il n'a pas de véritable action de transformation. Son rôle majeur porte sur le stockage, la régulation et le drainage du sang. Il produit la bile et gouverne les tendons et les ligaments. Le foie est également en relation avec les yeux. Il intervient dans la qualité de la vue et des sécrétions lacrymales. Sur le plan psychologique, la colère et l'irritabilité sont associées au foie. Et si ces fonctions sont harmonieuses, le comportement sera serein et inversement. La vésicule biliaire, de son côté, stocke la bile, la libère dans l'intestin grêle et aide l'estomac à faire descendre les déchets alimentaires. Sur le plan intellectuel et émotionnel, elle intervient dans la prise de décision à court terme et les jugements. On l'appelle le contrôleur du jugement, celui qui tranche. Et si son équilibre est harmonieux, pas d'hésitation ni d'indécision. Le foie, lui, gouverne la prise de décision à long terme et la planification. Pour tout ce que vous venez d'entendre, il apparaît nécessaire de soutenir son foie et sa vésicule biliaire pour bien traverser la saison du printemps, afin d'aborder en forme la saison suivante. C'est là la logique de la médecine chinoise. Les remèdes utilisés dans la pharmacopée chinoise sont perçus selon leur action énergétique. Les plantes, par exemple, essentiellement sous forme de tisane, de décoction ou de pilule, ont toujours fait partie des moyens utilisés par les Chinois pour se soigner. Soutenir l'énergie du corps pour lui permettre de lutter contre les agressions externes à cause du climat ou des épidémies, renforcer la fonction d'un organe en prescrivant un traitement adapté, tel a été le rôle des plantes en médecine traditionnelle chinoise. Je vous présente ici le romarin, Rosmarinus officinalis. Le romarin est l'herbe aromatique la plus salutaire pour le foie. Contrairement aux autres aliments qui soutiennent la sphère hépatique, il a l'avantage de ne pas être amer. Il stimule le foie, augmente la sécrétion des sucs digestifs et facilite la transformation des déchets. Ceux-ci seront alors plus facilement éliminés par les reins et le gros intestin. Le romarin, de nature chaude et de saveur amère, aide le feu digestif et assiste aussi le travail de la rate. L'infusion, consommée en fin de repas, prévient le coup de fatigue après avoir mangé. Le romarin augmente la circulation du sang dans les capillaires, ce qui stimule l'irrigation du cerveau. La personne voit sa concentration et sa mémoire s'améliorer, son activité cérébrale s'éveiller. Mais cet effet pétillant et réchauffant ne dure pas. Le romarin active le yang, lui donne un coup de fouet, mais ne le nourrit pas en profondeur. Le romarin agit aussi sur le cœur-âme. Il est efficace lorsque la personne est déprimée, sans énergie, sans envie. Il agit également au niveau du cœur matière. Ses constituants antioxydants rendent les capillaires et les artères plus solides et préviennent des accidents cardiovasculaires. Mais attention, il faut bannir l'idée, encore souvent admise, qu'une plante, si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. Les plantes sont en général plus ou moins douces, mais il n'existe pas de plantes totalement inoffensives. On peut toutefois utiliser en toute autonomie quelques plantes médicinales qui aident à conserver et même retrouver une bonne santé. Certaines règles sont à respecter. Une plante ne se prend pas au long cours, car ses effets peuvent être cumulatifs. Une cure de 3 semaines est généralement un maximum. En ce qui concerne les usages internes du romarin, on peut l'utiliser en infusion, en hydrolat, en macérat de jeune pousse, en teinture mère, en huile essentielle. Chaque forme galénique a son usage précis. Tenez, en tisane. Avec des plantes de qualité, Une pincée pour 25 centilitres d'eau suffit. La taille de la pincée doit être proportionnelle à celle de la main de la personne qui prend le remède. L'infusion consiste à verser l'eau frémissante sur la plante et à laisser reposer 10 minutes avant de filtrer et de boire. Elle peut se garder 5 ou 6 heures au frais. Cette infusion de romarin, prise après le repas, midi et soir, présente des vertus digestives. Aujourd'hui, on le considère toujours comme un antidote de la fatigue mentale et de l'oubli. La tisane de romarin redevient populaire parmi les hommes d'affaires et les étudiants fatigués qui la trouvent rafraîchissante et la considèrent comme un bon moyen naturel de retrouver l'agilité intellectuelle. Il est également efficace dans le traitement des maux de tête congestifs et de l'insomnie. Il est certain que la plante a une affinité avec le cerveau. Le romarin a aussi de nombreux usages externes. En olfaction, dans le bain, en massage ou en diffusion, toutes ces utilisations démontrent leur efficacité grâce à ses vertus antiseptiques, cicatrisantes et tonifiantes. Sur le plan symbolique, le romarin représente la loyauté, l'amour et l'immortalité. Et on pensait à une époque qu'il fortifiait le cœur aussi bien que la mémoire. Selon les conceptions anthroposophiques, le romarin officinal renforce le moi. L'extrait de romarin sera une aide précieuse pour les étudiants en période d'examen, mais aussi pour les personnes qui ne savent plus très bien où elles en sont dans leur vie, qui manquent de confiance en elles, qui doivent prendre des décisions, faire preuve de détermination, de courage, de volonté. On retrouve bien ici ses qualités pour soutenir le foie et la vésicule biliaire. En un sens, il peut être qualifié d'antidépressif. L'emploi du romarin demande toutefois quelques précautions. L'épice est vite brutale, difficile à manier. Elle couvre les autres saveurs et étouffe son cousin le thym de son encens sauvage. Alors prudence. Il est contre-indiqué aux femmes enceintes. Un usage trop intensif de cette plante peut provoquer une irritation rénale. Elle est également contre-indiquée en cas de colite. De plus, l'huile essentielle qui a, comme toutes les huiles essentielles, des propriétés antiseptiques, procure un effet tonique général et anti-fatigue. Cependant, il faut être prudent, car à dose trop élevée, elle peut provoquer de l'épilepsie. Vous trouverez les différentes formes de romarin en boutique bio ou spécialisée, parfois en pharmacie. Et si vous allez marcher en colline, ou bien si vous en avez au jardin, le meilleur moment pour cueillir les sommités fleuries, c'est au printemps. Dans la rubrique « Les aliments qui nous soignent », vous allez comprendre qu'il est intéressant de connaître la saveur des aliments, car cette saveur a une action très précise sur chaque organe. Ainsi, les 5 principales saveurs sont l'acide, l'amer, le doux, le piquant et le salé. Chacune de ces saveurs possède un impact particulier dans l'organisme, au même titre que la nature des aliments dont je vous ai parlé l'autre jour. De plus, selon la théorie des 5 mouvements, chaque saveur correspond à un organe dans lequel elle agit plus spécifiquement. Ainsi, l'acide est associé au foie, l'amer au cœur, le doux à la rate, le piquant au poumon et le salé au rein. Il faut savoir qu'une saveur en quantité modérée nourrit l'organe qui lui est associé. Manquer d'une saveur induit donc une malnutrition de l'organe correspondant et des tissus corporels qui lui sont associés. Mais un excès de cette même saveur lèse cet organe, ce qui entrave son bon fonctionnement et provoque des troubles dans l'organisme. L'harmonie des saveurs est fondamentale à notre équilibre. Et ce n'est pas tout. Chaque saveur possède une action spécifique dans l'organisme et engendre des effets métaboliques précis. Bien qu'il ne soit pas pris en compte par notre science moderne, ces effets sont bien réels et permettent d'expliquer les propriétés médicinales de la plupart des aliments. Nous allons nous attarder sur les propriétés de la saveur acide, qui est donc en lien avec l'organe foie et l'entraille avec lequel il est couplé, la vésicule biliaire. Car l'énergétique chinoise fonctionne toujours en binôme organe-entraille. Il est dit que la saveur acide rassemble. Cela veut dire qu'elle est astringente. Elle aide à retenir l'énergie. Cet effet est sensible lorsque vous mangez un aliment très acide. Si vous mordez franchement dans un citron vert, par exemple, vous aurez la sensation que l'intérieur de vos joues et votre langue se contractent. Même pour des aliments peu acides, pour lesquels vous ne sentez objectivement aucune acidité, son action astringente existe à divers degrés. Ainsi, elle tend à retenir ce qui s'échappe du corps de façon pathologique ou excessive, comme la sueur, le sperme, le sang. Les aliments de saveur acide sont souvent utilisés pour aider à arrêter les diarrhées, la transpiration incessante, les leucorrhées, les hémorragies, les toux, surtout dans le cas d'une déficience de l'organisme. Le foie, selon la vision de la médecine chinoise, est associé aux tendons et aux muscles et aux yeux. Une consommation raisonnable d'aliments de saveur acide tonifie le foie, nourrit les tendons et les muscles et permet une vision correcte. Une consommation insuffisante ou excessive d'aliments de cette même saveur entraîne une perturbation du foie qui ne nourrit plus de manière adaptée les tendons et les muscles, provoquant tendinite et crampes. Dans l'alimentation moderne, la saveur acide a souvent tendance à être utilisée en excès, sans même que nous nous en rendions compte, car l'industrie alimentaire utilise en effet la saveur acide comme exhausteur de goût, en particulier de la saveur sucrée, qui même, dans les plats salés, fait davantage vendre les produits alimentaires. Si vous comparez le goût des haricots verts juste cueillis et cuits à la vapeur avec celui des haricots verts en boîte, vous serez frappé par l'acidité latente des haricots préparés industriellement. La plupart des boissons couramment consommées par les adolescents ont également une saveur acide prononcée, camouflée par le goût sucré. Pour le partage musical d'aujourd'hui, je vous fais écouter une autre de mes idoles partie trop tôt, 27 ans, Janis Joplin. Elle a marqué les esprits par sa voix très maîtrisée, puissante et nuancée, avec une tessiture assez étendue et un timbre de voix particulièrement rocailleux. Quelque peu différent des styles folk et jazz des artistes blancs de l'époque, elle a su toucher son public par ses thèmes lyriques, tournant autour de la souffrance et de la perte. Janis a non seulement eu un réel impact sur sa génération, mais également sur les suivantes. Son engagement dans la lutte contre la ségrégation et son personnage de femme entière et révoltée la place comme membre très important du mouvement beatnik. Je vous laisse écouter Maybe. Quelle voix! Elle prend aux tripes. Son style de vie et ses accoutrements, sa façon rageuse et déglinguée de s'exprimer au féminin, ont bouleversé le monde du rock. Janis bouleverse bien au-delà de son œuvre musicale, son éternelle quête de liberté et sa haine profonde des normes sociétales font de la star une icône pour toutes les femmes de sa génération. Janis Joplin a incontestablement ouvert la porte au féminisme et à l'ascension des femmes dans le monde de la musique et du rock en particulier. Rendons hommage à cette star incontournable de la musique américaine de la fin des années 60. Et voilà, notre émission s'achève pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, retrouvons-nous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien, pensez à bien respirer, à bien manger, à bien rigoler, à bien bouger, à bien vous reposer, à bien aimer. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio Centrafrique, dans Les Hebdos, La Vida Vidanta. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, l'émission sera rediffusée le samedi à 8h15. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. Adisiat.